C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Ernst Marischka, réalisateur de films, scénariste, 1893-1963. Autrichien, célibataire douteux. Œuvre Sissi, 1955. Sissi impératrice, 1956. Sissi face à son destin, 1957. Personnage, Sissi, le personnage du film, qui n'a qu'un rapport de sucrerie avec Elisabeth de Wittelsbach, duchesse en Bavière puis impératrice d'Autriche, interprétée dans le film par Romy Schneider. Regardant Sissi impératrice pour la première fois, je me suis exclamé « Lady Di ». Si le public a tellement marché à l'histoire de cette pauvre dingue qu'était la princesse anglaise, c'est que cela lui rappelait sans doute Sissi sans qu'il s'en rende compte. Sissi ou n'importe quelle histoire de jeune épouse apparemment sans complications qui se trouve écrasée par la méchante famille de snob où elle est entrée par mariage et qui s'oppose à ses élans de bonté. L'individu contre les institutions, l'humanitarisme contre l'égoïsme. On montre Sissi soutenant la minorité hongroise comme Lady Di consolant les malades du sida. Les Hongrois, qui ne rêvaient que de soumettre les Croates, les Slovaques et les Bosniaques, et se sont empressés de se faire aussi fascistes que l'Autriche après la Première Guerre mondiale. Quant aux supposées princesses du peuple et autres reines du cœur, Diana venait de la très ancienne et très riche famille des Spencer, bourrée de duchés, de comtés et de baronnies, et Elisabeth était duchesse et petite-fille du roi de Bavière. Et ces deux malheureuses, l'une finissant pareille à un cierge noir dans des villas grecques entre deux sniffs de cocaïne, l'autre allant de yacht en yacht dans les bras de playboy de plage, se sont peut-être sincèrement prises pour des fanchons. Romy Schneider, minaudière comme une majorette et sautillante comme du sucre en poudre, a joué cette mélodie du malheur d'une niaiserie à rugir quand elle avait 16 ans, finissant, comme on sait, par prendre le rôle en horreur. C'est aux trois films Sissi que je vais m'intéresser aujourd'hui, cette trilogie si écœurante qu'on pourrait l'appeler Sissi Impératros. Notons que, à la fin de sa vie, devenue belle et émouvante, Romy Schneider a repris le rôle d'Elisabeth dans Le Crépuscule des Dieux de Visconti, film splendide, où elle a sans doute pris une revanche intérieure sur ses débuts. Et tout cela me rappelle le mot Sissi avec un Y, tel que Betty Davis vieillarde l'avait brodé sur un coussin de sa maison à Hollywood. Old age ain't no place for sissies, la vieillesse n'est pas un endroit pour les chochottes. Qui est Sissi? Pour en parler, je reçois Anne Boulet, directrice de la rédaction de Vanity Fair. Anne Boulet, à quoi ressemble physiquement Sissi?
Alors, je ne l'ai pas connue personnellement, mais selon qu'elle est incarnée par Romy Schneider ou que nous voyons les tableaux de Winterhalter, elle n'est pas totalement identique. Elle était très grande dans la vie, enfin pour une femme de son époque, et elle mesurait 1m72 et elle avait décidé qu'une fois pour toutes, elle ne dépasserait jamais les 50 kilos. Ce qui fait quand même un indice de masse corporelle assez faible, je pense. Donc, alors que Romy Schneider était petite. Donc,
elle était née anorexie de son nom de jeune fille.
Oui, c'est ça. Son middle name était anorexique, en effet. Elle s'alimentait fort peu, elle faisait s'épuiser à la gym. Donc, elle était grande et mince. Et en effet, très peu portée sur la nourriture.
Alors que l'actrice qui l'interprète, en tout cas à l'âge de 16 ans, n'était sûrement pas très grande et très mince.
Non, elle n'était pas, il ne faut pas non plus exagérer, elle était très bien proportionnée pour une personne de sa taille.
Mais une véniche boulotte
Non, je ne vous dirai pas ça, je ne vous laisserai pas dire ça. Mais bon, elle était plus en chair et je pense probablement plus spontanée que la vraie, qui malgré toutes les qualités qu'on lui prête, avait l'air quand même un peu plus dark.
Comme nous n'avons pas gardé les diadèmes avec elle, je précise, cher ami, que lorsque nous parlerons de la personne de la vie matérielle, nous dirons l'impératrice Elisabeth, très poliment, et que lorsqu'il s'agira du personnage, nous dirons Sissi. Car en fait, il y a vraiment une transformation entre le personnage de la vie réelle et le personnage de la vie filmée.
Ah ben le mot édulcoré ne suffit pas à décrire la différence énorme entre la vraie vie d'Elisabeth d'Autriche et celle qu'a filmée Ernst Marischka. Où c'est une vie de malheur total, la vraie vie, et la trilogie, c'est que du bonheur, quasiment. Effectivement, y compris conjugal, alors que bon, il est quand même assez établi que ça se passait moyen.
Voulez-vous me faire un résumé de la vie authentique de l'impératrice Elisabeth?
Elle aime beaucoup faire du cheval avec Papilly dans les forêts de Bavière, son papa, chéri, effectivement.
Non, là, je ne parle pas du film, je parle de l'impératrice.
Non, mais même la vraie.
Elle était très forêt.
Donc, Non, non, ça, jusque-là, tout va bien, tout ce qui n'est pas filmé est juste.
Très forêt champignon.
Très forêt champignon, Papilly, coucou les bambis, etc. Elle tombe amoureuse d'un vague cavalier qu'il est hors de question qu'elle épouse, tout ça doit avoir 13 ans et demi, et donc elle est expédiée à la cour d'Autriche avec sa grande sœur Hélène, pour la distraire justement de ses peines de cœur, et là, horreur, malheur, Franz Joseph décide que c'est la jeune qu'il veut épouser et pas du tout celle qu'il épouse. Tout ça est cousin, hein, donc ça explique bien des problèmes après. Ils ont leurs mères sont sœurs. Donc, les mères sont sœurs, donc forcément, voilà, c'est pas forcément recommandé par la génétique. Il est un fait que François Joseph tombe amoureux, décide d'épouser Sissi, qui veut pas trahir sa sœur, etc., qui n'a pas du tout envie de l'épouser et qui l'épouse quand même. Donc c'est un mariage forcé. C'est
qui
un
n'a
peu
pas du tout envie de l'épouser, la sœur?
Élisabeth. Enfin, donc elle épouse ce François Joseph qui est très amoureux d'elle, contrairement effectivement à Charles qui était quand même pas très porté sur Lady Di. Et elle n'a pas l'air très portée sur François Joseph, sur la vie conjugale dans toutes ses expressions. Et donc, elle essaie de partir le plus possible, le plus loin possible. Il faut quand même un héritier, ça c'est important, qui seront d'abord des héritières, dont un certain nombre vont mourir, donc elle aura un seul fils.
Le
fils qui meurt à Meyerling, qui est, voilà, effectivement. Donc, beaucoup, beaucoup de
malheur. Grosse bratwurst de malheur.
Ah, énorme choucroute de malheur. Que du, vraiment, bon, alors après, elle avait l'air un peu névrosée quand même, hein, il faut bien le dire. Donc, elle avait probablement une sorte d'inclinaison pour ça, mais on lui enlève ses enfants, là. Sa belle-mère, dont on reparlera peut-être plus tard, la Sophie, la mère de Franz Joseph, elle est très jeune, elle se marie à 16 ans, donc elle en a 3, je sais pas, à 22 ans, elle a déjà 3 enfants, et on décide qu'elle est beaucoup trop jeune et folle pour s'occuper de ses enfants, donc elle ne s'en occupera pas. L'aînée meurt en bas âge d'un truc idiot, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, évidemment. Mmh. Et donc, oui, tout est tragique tout le temps, quoi. Elle n'aura vraiment que des malheurs, et puis elle finit avec une lime à ongles dans le cœur, avec un mec qui voulait même pas la tuer, elle. Donc, c'est très dommage.
Trop elliptique, c'est une grande qualité dans la vie, mais là, il faudrait nous expliquer un peu, parce que la lime à ongles dans le cœur, je crois que si les gens ne savent pas, ils vont.
Alors, elle se fait assassiner. Elle est à Genève. Avec très peu de personnel, ce qu'il faut
200
noter.
Personnes.
Oui, oh, bah non, en fait, ils sont vraiment que deux, parce qu'elle a renvoyé tout le monde, je sais pas, elle a de manière très simple.
Mais quand je disais les sniffs de cocaïne, c'est tout à fait authentique, hein.
Ah, ça, j'étais pas cocaïne. Non plus. Si, peut-être que vous avez participé à d'intéressantes. Oui, c'est ça.
Nous étions domestiques.
Des relations, oui, c'est ça. Non, alors oui, bah, ça va bien avec le profil 50 kilos pour 1m72. La Kate Moss de son époque, peut-être. Enfin, toujours est-il que, alors qu'elle a déjà perdu un fils, fait beaucoup a eu beaucoup de problèmes, perdu Louis II, son cher ami, vous évoquiez le film
Visconti
tout à l'heure, son cousin préféré qui n'était pas non plus totalement sain d'esprit. Et donc, voilà, cet anarchiste souhaite tuer quelqu'un de célèbre et en fait, faute de quelqu'un de célèbre, il se rabat vraiment sur Sissi qui ne se rend même pas compte qu'elle a une lime dans le cœur et mourra à l'hôtel Beau Rivage ou ce genre, voilà, une fois... On ne s'est pas rendu compte qu'effectivement elle avait été assassinée à ce moment-là.
Donc, et voilà. Arrive Monsieur Marischka en 1955, qui prend son grand pot de peinture rose.
Exactement.
Et qui nous refait ça. Alors qu'est-ce que ça devient dans la série des trois filles?
Ah bah alors là, il n'y a plus que des biches, du papilly et des rideaux à dos et des tentures, des glaïeuls. Une décoration effectivement pas piquée des verres, des grandes robes en synthétique et des choucroutes en guise de chignon. Donc là, effectivement, il n'y a plus que le bonheur conjugal et les excursions dans les Alpes et que je te récolte des Edelweiss et que je suis rigolote comme tout et que...
Bon, même un peu rebelle.
Voire princesse rebelle, effectivement. Alors, elle était rebelle il est un fait qu'elle détestait la vie de cour, qu'elle avait pas l'air fun, en effet, et qu'elle détestait sa belle-mère. Donc, ça faisait beaucoup de choses qu'elle détestait.
Est-ce donc que c'était ça, quand une même... punaise?
Qui? Sissi ou sa belle-mère?
Non.
Oui, elle avait l'air un peu insatisfaite en permanence.
Jamais
quand
contente.
Même. Jamais contente.
Voilà,
parce qu'il dit, bon, alors, je ne sais pas si le vrai Franz Joseph était aussi charmant que Karl-Heinz Böhm, mais c'est pas sûr.
Non, hein, non, ouais. Je crois pas.
Alors que la vraie Sissi était aussi jolie que Romy Schneider, différente mais jolie aussi. Enfin, elle fait quand même beaucoup de bouche à l'envers pour un truc pas si mal, quoi, quand même, ça va. Elle a 150 pièces, 3000 domestiques.
C'est inchauffable,
des tenues
c'est
super.
Inchauffable.
Oui, mais enfin, elle a des jolies toilettes, elle a des bijoux de tête de prestige.
Alors, il faut dire, Anne Boulay, que le film a été tourné moins de 10 ans après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et c'était la deuxième fois que l'Autriche était battue, et j'ai un peu l'impression que ces films ont servi à la pauvre Autriche à se droguer aux pilules pour se faire clairement croire qu'elle avait été un paradis, non ?
C'était totalement une sorte de nostalgie d'un État qui n'était pas si, d'ailleurs, admirable que ça. Mais en effet, 10 ans après, alors qu'ils ont quand même donné naissance à Adolf Hitler, qui, faut-il le rappeler, était autrichien, tout à coup, c'est ce pays merveilleux, avec que des valses, des gentils gitans à qui on jette la piécette, des super Hongrois qu'on efface de côté, avec qui on danse le quadrille. Enfin, tout va bien, effectivement. Tous ces gens sont très gentils. Ils aiment encore une fois la nature, enfin, ils sont super, quoi. Donc, en effet, c'est une sorte de révision historique en technicolor qui va durer les 3 épisodes en plus. Et qui a un succès faramineux. C'est-à-dire qu'il y a, ça fait 22 millions d'entrées. Donc, tout le monde peut aller se rhabiller. Puis, par ailleurs, ça fait 50 ans que c'est rediffusé sur la première chaîne à tous les Noëls.
Et d'ailleurs, nous en parlons.
Et c'est hasard ou complot, la Sissi en question était née un 24 décembre. Faut-il y voir un gros cadeau ?
Et hasard ou complot, le premier Sissi est sorti en 1955, année où les troupes d'occupation alliées quittaient l'Autriche.
Ah ! Vous voyez ? Il n'y a pas de hasard.
Ce qui est un peu bizarre, c'est que ça ait marché dans l'Europe entière, alors qu'on pourrait se dire que la France n'avait rien à faire en 1955 du passé de l'Autriche.
Alors, du passé de l'Autriche, non, mais enfin, c'est un conte de fées. C'est-à-dire que ça a été tellement édulcoré que c'est une histoire de princesse, encore une fois, avec des jolies toilettes, un fiancé parfaitement cranté et toutes sortes d'aventures qui l'emmènent de Corfou à, je sais pas où, à Venise, à la fin, effectivement, où cette scène formidable, où elle retrouve sa fille.
D'ailleurs, la première scène du premier film montre le père de Sissi, le duc de Bavière, en train de pêcher sur un ponton. Et il est entouré d'enfants obèses dans des costumes de poupées. Ils sont aussi laids que les affreux monstres sans cou de la pièce de Tennessee Williams.
C'est Papilly.
C'est si kitsch que ça a l'air de sa propre parodie.
Oui, c'est tout à fait exact. En particulier dans la déco, qui est quand même un truc, je peux pas croire deux secondes que qui que ce soit ait eu des meubles, surtout les doubles rideaux. C'est pas possible. C'est une insulte à tous les goûts, même dans les pires trucs de folle anglaise. On n'a jamais imaginé des choses aussi laides. Et oui, je sais pas, il y a une obsession pour le rideau. On dirait les femmes de dentistes qui sont toujours coupables dans des rics un peu. C'est un truc également très, très constitutif de l'esthétique allemande, je pense, ou autrichienne, donc par extension.
Voilà. D'ailleurs, elles sont habillées avec des doubles rideaux dans cette.
Elles sont très habillées avec
très double rideau.
Scarlett par les rideaux. Oui, c'est vrai que c'est. Et les invendus de Violette Impériale, un petit peu aussi, pour ce qui est Franz Josef, qui est très opérette quand même.
C'est vrai.
Un peu Luis Mariano quand même pour un Autrichien, mais bon. Pourquoi pas ?
Il y a une folle qui devrait sortir de ce corps.
Il y a beaucoup de... C'est quand même un film... Je ne sais pas, vous avez fait des allusions que je ne connaissais pas à Ernst Marischka. C'est quand même un film de folle. Sissi était fille à pédé à mort. Enfin, c'est tout ça.
Dans la real life.
Louis II, déjà...
C'est voilà. Son cousin.
Oui, et alors, j'ai envie de dire. Non, si, 13. Alors, elle avait une sorte de truc platonique avec le comte Almazy... etc. Et elle consommait peu, en fait, donc elle était 13 ans, entourée de garçons qui lui faisaient pas de mal.
Puis elle a quand même un côté sympa, c'est qu'elle cire elle-même ses chaussures.
Oui, en crachant dessus.
Voilà, elle et son père boivent de la pierre en poussant des gros soupirs après, comme des paysans.
En fait, elle est très nature.
On peut s'identifier, enfin, pas vous, mais les braves gens.
Alors, c'est peut-être ce côté princesse du peuple, mais enfin, qu'elle n'était pas du tout, hein, parce qu'elle n'était pas non plus... Encore une fois, dans le troisième, il y a une scène avec des gitans dont je me souviens bien, où elle je sais pas, il y en a une qui se fait battre par son mari, et elle lui dit, mais si j'ai envie de me faire battre, je me fais battre. Elle lui dit, bah, après tout, si ça lui fait plaisir, très bien. Et ensuite, il gratifie les enfants de piécettes. C'est d'un racisme absolument éhonté. Donc, princesse du peuple, rien du tout.
Oui, d'ailleurs, le dernier, c'est Sissi face à son destin. Son destin, la pauvre chérie, c'est qu'elle a mal au poumon, elle pleure, elle guérit.
Physique.
Et ça finit à Venise.
Voilà. À Venise, absolument.
Et les seuls bruits d'applaudissements sont, à mon avis, les ailes des pigeons qui s'envolent à la fin, qui lâchent ce caca de film.
Ne soyez pas si dur.
C'est chez Visconti qu'il faut trouver l'exactitude. Et là, je pense au film Senso, qui est si merveilleux, qui se passe aussi à Venise au moment de l'insurrection contre les Autrichiens.
Mais qui est moins éclairé.
Oui, mais c'est plus chic. Nous allons maintenant entendre un extrait de Sissi en version française. Romy Schneider est doublé par Gilberte Aubry.
Sissi ! Bonjour !
Saute par-dessus le massif !
Max, c'est ridicule, voyons, tu es fou !
Éperonne !
Yahoo ! Je ne suis jamais tranquille avec toutes vos excentricités.
Ah, cette petite, c'est le portrait de son père.
Voilà, princesse. Alors, elle a bien sauté.
Merveilleux.
Elle a la légèreté d'un chamois et l'adresse d'un écureuil.
Ah.
Oh, elle a bien mérité une double ration d'œufs.
Oh, elle mange déjà beaucoup trop.
Il y a des graines pour les oiseaux?
Bah, je les ai mises là, à côté.
Merci.
Allez, viens, excuse-moi. Viens, viens.
Anne Boulay, nous parlons avec beaucoup de respect, infiniment de déférence du film Sissi depuis tout à l'heure. Il faut dire que c'est aussi un film qui n'est peut-être pas aussi tarte que nous l'insinuons, ou en tout cas qui a une intention, c'est que ça propage beaucoup de valeurs familialistes, de piété et de respect. C'est un film qui a aussi cette intention-là. C'est à la fois cette espèce d'anxiolytique dont on parlait. Oui.
Enfin, c'est un film royaliste quand même, parce qu'en effet, il y a une sorte de... Donc, c'est de la famille... en effet, on peut à la limite excuser la belle-mère, qui est quand même très pénible, parce qu'elle essaie de toute force...
C'est elle qui a raison. Dans les films, les méchantes ont toujours raison.
Probablement, parce qu'on s'en souvient, c'est comme la méchante dans La Petite Maison dans la Prairie, mère méchante.
Elle a raison de vouloir priver cette mère dingue de ses enfants.
Peut-être. Bah, déjà, il fallait pas que son fils épouse sa cousine germaine, bien qu'autrichienne. C'était déjà mieux, je pense. Ça aurait limité. Ils étaient tous dingues dans la famille, donc de toute façon, il y avait un problème. Mais surtout, elle veut absolument sauver cette monarchie qui est menacée. Donc, elle le fait uniquement pour des raisons, d'intérêt du pays. Ensuite, c'est un film très petit bourgeois, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, c'est que des dîners, des trucs, des machins, c'est que de la parade, du paraître, de la valse de Strauss. Et une sorte de fausse mélodie du bonheur, en effet, qui se passe en plus dans les Alpes, mais avec quand même peu de place pour la félicité conjugale, etc. Donc c'est le devoir quand même avant tout. C'est Kinder, Küche, Kirche, un peu quand même la vie de...
Oui, c'est ça.
Si elle s'y conforme. Alors elle a envie de cloper, elle fume, sa cousine mourra d'ailleurs à cause d'elle, parce que elle lance la mode de la clope à la cour. Et donc, une de ses cousines fume avant un bal et ça reprend feu. C'est ce problème de la crinoline, quoi.
Le problème du synthétique.
Et donc, ça fait partie de... Oui, bah oui. Non, le même sans synthétique. Les robes étaient enduites de glycérine pour que ça brille. Donc,
dans les films.
Elle se transforme en torche. Non, dans la vie.
Ah, dans la vie?
Et donc, elle se transforme. Ça sera un des nombreux malheurs de Sissi.
Arrêtez-vous, c'est très important. On enduisait les robes de glycérine.
De glycérine, absolument. Pour conférer un peu de brillant et de souplesse à l'étoffe. Mais en fait, il est un fait que la cousine s'est transformée en torche vivante, et voilà.
Et morte.
Oui. Beaucoup de morts autour de Sissi.
Parce qu'en fait...
Chat noir.
Oui. Quand vous parliez de... D'ailleurs, elle a fini habillée en noir à la fin, elle s'habillait comme une veuve qu'elle n'était pas.
Elle avait perdu
ses enfants.
Elle avait perdu beaucoup d'enfants, 2 des 4, donc ça fait quand même beaucoup. Elle en aimait 1 sur 4 aussi, donc bon, ben voilà.
Elle en aimait 1 sur 4?
Oui, la dernière.
Et d'ailleurs, elle a une phrase au moment où elle accouche dans le film de son premier film, Romy Schneider, enfin Sissi, dit à François-Joseph, lui dit, c'est une fille, tu aurais préféré un petit prince. C'est-à-dire, ça colporte des valeurs. Enfin, je dis ça parce que la monarchie autrichienne acceptait la succession des femmes. La fille aurait pu régner.
Mais
quand même, elle propose...
Oui, elle préfère quand même un petit patriarcat.
Donc, en réalité, c'est une vision complètement aberrante de l'aristocratie et de la monarchie. Comme vous le disiez, c'est un film petit bourgeois.
C'est très petit bourgeois, oui. C'est très petit bourgeois et ça hurle pas la culture, même si après, c'est qu'ils ont quand même copieusement raqué Wagner et tout ça. Mais enfin, ça donne pas l'impression de monarque éclairé quand même, hein.
Mais la date de diffusion est importante, 55, 56,
oui,
57,
sûr, 57,
c'était des films qui auraient été impossibles peut-être 6-7 ans après, parce qu'il y avait le repos du guerrier, on était encore dans des temps finalement qui étaient d'après-guerre dans les chiffres, mais qui étaient d'avant-guerre dans l'idée qu'on se faisait des rapports humains, non?
Oui, et puis bon, après on va pas entrer dans le vaste débat de ce qu'a fait l'Autriche de son passé par rapport à l'Allemagne, où effectivement ils avaient plus manifestement envie de croire qu'ils en faisaient pas partie, ils faisaient pas partie du nazisme, ou que c'était leur corps défendant. C'est aussi ça que ça montre, c'est que c'est un peuple en soi et que les pauvres, ils ont été anschloussés et que donc c'est pas de leur faute si l'Allemagne est devenue nazie et qu'ils en faisaient partie. Donc en effet, c'est aussi un truc, un énorme effort de dédouanement et de réenchantement de ce petit pays qui laisse croire qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment.
Parlons d'esthétique, Anne Boulay.
Oui,
les couleurs de la trilogie des Sissi sont hideuses, nous pouvons le dire.
Alors, d'autant qu'il y a une version restaurée.
Ah bon?
Qui est encore pire.
Ah bon?
Ah oui, là, c'est flash.
Ils ont émaillé les couleurs?
Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais sûrement. Donc, ils ont poussé les amplis à 11, et donc là, c'est vraiment dur.
Et ce qui est très frappant, c'est que j'aimerais bien savoir qui était le costumier et le décorateur du film, car en particulier dans les habillements des femmes, il y a une robe rose à côté d'une robe verte, à côté d'une robe bleue. Ça arrive peut-être dans la vie où les femmes ne s'appellent pas avant de s'habiller, mais dans les films.
Vous connaissez la cour d'Angleterre? Vous voyez qui est la reine d'Angleterre?
Très mal.
Très mal. Alors, c'est une petite dame qui s'habille toujours comme un stabilo boss, à peu près, pour qu'on la distingue du reste de la population. Donc, c'est un vieux truc des monarchies. C'est qu'on s'habille de couleurs très, très vives pour se distinguer de la plèbe qui est dans des couleurs ternes, évidemment. Hein. Mais après, c'est vrai que là, le costumier s'est quand même lâché. Il était peut-être... je ne sais pas, daltonien, mais en effet, c'est migraine ophtalmique.
Hein. Vous avez raison, car la teinture des vêtements n'a été accordée aux populations que très tard. Tout le Moyen-Âge, et même dans l'Ancien Régime, les gens pauvres et même de conditions moyennes étaient habillés dans des tissus écrus, car on n'avait pas les moyens de se payer les teintures.
Ou noir, parce que quand la zone est devenue protestante, c'était moyennement rose vif quand même. Hein.
Moyennant quoi, ça n'est pas parce que ça se passe comme ça dans la vie que la reine d'Angleterre est stabilo boss, comme vous dites, qu'un film doit faire la même chose. Un film a un peu un sentiment esthétique de transformation. Je parlais de Visconti, il a passé sa vie à adapter des couleurs ravissantes pour faire de ces pellicules un tableau.
Alors, il est probable que Visconti avait un point de vue que Ernst Marischka n'avait pas, et que c'est pour ça qu'on se souvient de Visconti comme d'un grand cinéaste, et moins d'Ernst Marischka, dont on est tous absolument incapables de citer le moindre autre film, alors qu'il en a tourné, je sais pas quoi, 50, mais on a oublié les 47 autres. Donc, en effet, c'est l'homme qui a tourné Sissi et qui en a fait... cette espèce de pâtisserie en sucre filé absolument incroyable et qui effectivement, je pense, correspond par ailleurs au goût des années 50. Je pense que la bouffe était pas... Mais c'est Liberace, quoi. Et quand on voit, en effet, les tableaux ou les photos qui existent de Sissi, je peux pas croire deux secondes qu'effectivement, elle était en bleu canard, en rose vif, en jaune, etc. Elle avait ses cheveux incroyables, en effet. Romy Schneider se plaignait beaucoup parce qu'elle avait des perruques qui pesaient des kilos, je crois. Mais jamais de la vie, je pense, qu'il portait ces couleurs-là. Ça ne correspond pas du tout au goût du 19e siècle.
Dans les années 55, comme ça, l'habillement était très flashy, je veux dire, chez les gens normaux.
Ça pouvait, c'est très Las Vegas, quoi, j'en sais rien. Non, peut-être pas chez les gens normaux, mais en tout cas dans la représentation, dans le show business, voilà. Pensez Liberace.
Il y a, à propos de Liberace, dans Sissi, le rôle de la musique est prépondérant. Il y a de la crème de violon, des pizzicati.
André Rieu sort de ce corps.
Oui. Tout à fait, il y a des scènes humoristiques d'un goût exquis dans le gendarme à Saint-Tropez, quelque chose comme ça. Et même, une chose qui m'a le plus enchanté dans le deuxième film, c'est qu'il y a un nocturne de Chopin qui est diffusé pendant une scène diurne. En tout cas, je pense que ça participe à l'idée d'anesthésie.
Oui, c'est probablement, mais ça qu'on dirait effectivement des pubs pour les liégeois de Chambourcy, enfin tout ça. Et il y a quand même à base de valses de Vienne réorchestrées à mort et de marches de Razetsky, je ne sais pas, jouées au coupe-ongle, enfin tout ça est quand même... Et quand même, ça c'est un univers un peu, comment dire, super kitsch, en effet, où ça coche toutes les cases de Vienne, en effet. C'est en plus, généralement, on se finit le 1er janvier avec le concert de Nouvel An, et qui est toujours clos par la marche de Radetzky, etc. C'est une sorte de trucs nostalgiques, quoi, je pense, qui repose uniquement sur une sorte d'inconscient collectif, là, qu'on se refile.
Et je pense que ce sont des gens qui devaient, probablement, on ne le sait pas, je n'ai pas de source historique, mais je pense que ce sont des gens qui devaient se suicider, non pas au cyanure, mais à la crème chantilly.
Ernst Marischka peut-être, quoi qu'il est mort fort vieux, je crois, mais si, il y avait un régime alimentaire assez particulier, où elle buvait du sang de bœuf... Puis probablement de la cocaïne, du lait, des bouillons de poule. Enfin, on dirait David Bowie en 74 à Los Angeles, quoi. C'est un peu lait et poivron, quoi. Que des trucs qui vont pas ensemble, qui se digèrent pas. Donc bon, du coup, plus facile de garder les 50 kilos. Hein.
Est-ce que vous diriez avec moi, Anne Boulet, que la série des Sissi est un exemple type de film pétainiste? Car François Joseph, pendant tout son règne, ça a été Pétain, c'est-à-dire un vieillard fétichisé qui perdait tout. Il a tout perdu dans l'histoire de l'Autriche. Il est arrivé, puis petit à petit, il a perdu des territoires. Et qu'on disait exactement comme Pétain, irresponsable pour défendre le régime. Par exemple, le premier film le montre débordé sur sa droite par son conseil qui lui conseille la fermeté envers l'Autriche. Tout ça est une fiction la plus totale. Et donc, il y a une fétichisation réellement pétainiste, à mon avis, de la figure de François Joseph.
Oui, probablement, qui de fait beaucoup moins connu finalement dans la culture générale que Sissi, qui a confisqué le mic, en fait. C'est-à-dire que on ne se souvient que d'elle. François Joseph, dans le fond, qui peut raconter la vie de François Joseph, alors que la vie de Sissi, en tout cas, according to Ernst Marischka, tout le monde la connaît. Mais c'est vrai qu'il y a une vision un peu particulière. du rôle de cet empereur dans l'histoire de l'Europe, ça c'est clair.
Nous pourrions sous-intituler cette émission « De l'influence de la culture populaire sur la connaissance historique », parce que ce que vous dites est tout à fait exact. Je pense que les films Sissi ont noyé la figure historique de François-Joseph sous la crème rose Sissi, mais enfin, c'est parce que c'était encore une fois en 1955.
Oui, bien sûr.
Dans l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1940, François-Joseph était la personne la plus haïe de l'Europe parce que c'est lui et c'est l'Autriche qui avait engendré la guerre de 14 et qui avait fait 10 ou 14, j'ai oublié, millions de morts.
Oui.
Donc, c'était une figure haïe.
Bien sûr. Oui, mais là, évidemment, ça, c'est le gentil mari de l'amusante Sissi, donc ça change tout. Après, ce qui...
Oui, mais je dis ça, pardon de vous interrompre, parce que il est fascinant de voir comment une marée de culture populaire peut effacer une connaissance historique positive.
Bien sûr, mais c'est le danger qui nous guette tous sur la réécriture de l'histoire, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que des types abominables deviennent soudain... je sais pas, c'est Mussolini en Italie, évidemment, c'est ce problème vieux comme le monde de la réécriture de l'histoire, en effet. Donc,
Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une réécriture idéologique manifeste, c'est-à-dire il n'y a pas eu une série de livres d'histoire disant attention François-Joseph.
C'est pas ça qui compte. Mussolini non plus, il est pas réhabilité par des ouvrages qui disent on s'est complètement gouré, en fait ce type n'était pas fasciste, c'était un bienfaiteur de l'humanité.
Vous avez le fascisme réhabilité dans de la culture populaire?
Non, pas encore, parce que c'est trop près de nous, je pense. Oui. Mais parce que là, il y a eu, par ailleurs, pas d'archives, c'est aussi beaucoup plus simple. Il y a trois tableaux de cours, deux mauvaises photos et du coup, évidemment, le film de Marichka comble tout à fait ça. Et d'ailleurs, je pense que dans l'esprit de absolument tout le monde, et pour encore très longtemps, Sissi, c'est Romy Schneider. Enfin, ce qui a été le drame absolu de Romy Schneider. Puisque c'était malheureusement vrai dans l'autre sens, pendant longtemps, pour elle. Mais en effet, ça a imposé cette vision, de façon, en effet, tout à fait sous des dehors très braves et sucrés. Mais oui, bien sûr.
L'intention quasi-fasciste vaut par le fait que la politique disparaît des films. C'est l'intime écrase la politique.
Oui, ou alors ça sert de toile de fond, encore une fois très gentil, avec un cadré, avec les Hongrois. Donc,
Et pour en revenir à Romy Schneider, dont vous parliez à l'instant, Anne Boulay, dans un récent documentaire diffusé sur Arte, on a entendu des confessions de Romy Schneider qui se plaignait de sa mère, laquelle joue dans le film, comme nous savons, et qui était nazie.
Qui joue sa mère Ludovica, effectivement, qui, en effet...
Magda Schneider,
qui était, comme on dit, avec tous les guillemets qu'il faut, proche de Martin Bormann, qui vivait à deux pas de
Berchtesgaden,
et était reçue sans arrêt par Hitler, Eva Braun, etc. Et Romy Schneider a joué avec les chiens, les enfants. Il y a des photos, d'ailleurs, et des images, même, où on la voit. Et en effet, elle est élevée par cette mère nazie, qui donc était elle-même actrice. Il y a eu un passage extrêmement discret dans sa carrière après la guerre. Et donc, s'est servi de sa fille pour... en fait, elle s'imposait. C'est elle qui s'est imposée dans le film pour jouer le rôle de la mère.
Ah oui.
Parce qu'elle n'avait plus d'emploi. Parce que, bon, elle avait quand même été vraiment très, très, très proche du pouvoir. Quoi. Donc,
dans ce documentaire, Romy Schneider dit... positivement qu'elle soupçonne sa mère d'avoir été la maîtresse de Hitler.
C'est ça. Je crois qu'elle, effectivement, elle avait fini par concevoir une haine farouche, ce qui est probablement compréhensible. Et il se trouve qu'en plus, sa mère avait épousé un homme qui était à la fois l'agent de Romy Schneider, mais dont elle avait à subir les assauts incestueux, qui était vraiment, c'était vraiment atroce. C'est une famille, on dirait un mauvais Fassbinder dans la vraie vie, quoi. Je pense que c'est un des débuts extrêmement douloureux et tout ça avec une espèce de comédie, en effet, du bonheur, de la joie de vivre, de la fraîcheur, etc. Mais avec une mère qui la surveille, qui la pousse devant la caméra, qui effectivement orchestre également sa rencontre avec Delon, etc. C'est-à-dire qu'elle a été vraiment, c'était une
manipulatrice.
Une mère maquerelle un peu, effectivement, pour employer des mots un peu peut-être brutaux, mais... Oui, elle s'est vraiment servie de sa fille pour continuer à exister. Elle est morte très tard, comme toutes les femmes méchantes. Et je pense que c'était manifestement une douleur dont elle a parlé assez tôt, en fait. Hein. Elle s'en est éloignée le plus possible. Et en effet, à la fin de sa vie, elle en parlait en termes plutôt négatifs. Je ne suis pas sûre qu'elle la voyait encore, ni même qu'elle ait assisté à ses obsèques, par exemple. Mais oui, c'était compliqué.
Anne Boulay, que vous a appris le personnage de Sissi ?
À cirer mes chaussures en crachant sur mes bottines.
Comme si j'étais assis
C'était Personnage en personne, le 61e. Cette émission est dédiée aux participants à la fameuse soirée Chichi Impératrice à Paris, rue de Bellem, le 3 octobre 2010. La semaine prochaine, je parlerai du personnage d'Antigone créé par Sophocle dans Antigone. Le paradis acquis. Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Daphné Abgral, prise de son Valérie Lavalard. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.